Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Alors aujourd'hui dans notre podcast, je suis vraiment content cette semaine de parler de les questions que inévitablement un parent, une maman, un papa vont se poser. On va dire pendant les 24 premières heures du bébé, on est dans la chambre, on s'interroge et quelles sont les questions principales?
Oui, voilà. C'est ça.
Et ça, il va y en avoir un paquet, mais on va se retenir les principales.
Ok.
On y va?
Oui, on y va.
Allez.
Eh bien, alors, moi, la première chose que je me pose, est-ce que je peux le sortir? Alors, c'est tout bête, hein, mais est-ce que je peux le sortir de son petit lit, là? J'ai vu les petits lits super mignons qui se mettent à côté du lit et de la maman, mais est-ce que je peux le sortir quand je veux? Ou est-ce que je dois attendre? Enfin, voilà, est-ce que je peux le porter? Est-ce que je dois faire gaffe à son sommeil, s'il dort? Enfin, voilà, c'est un peu...
Alors, le sortir, non, c'est interdit. Il faut demander une autorisation à remplir en 5 exemplaires au deuxième étage.
C'est pas vrai.
Non, mais bien sûr que vous pouvez le sortir.
Oui, mais bon.
C'est ça qui est fabuleux.
D'accord.
Vous vous rendez compte? Il est à côté de vous, il fait des petits bruits, des petites mimiques, oui, que vous allez découvrir. C'est votre bébé. Et c'est ça qui est bien, c'est que les berceaux sont transparents. Comme,
oui,
ça, on voit si bébé bouge. On n'a pas besoin de se bouger ou de se mettre assis en étant allongé. La maman, si en plus elle a eu une césarienne et tout, bah, elle peut bien voir son bébé sans être obligée d'avoir mal à son ventre et tout ça. Elle voit bien le bébé qui bouge. Donc, la première des choses, effectivement, c'est une question, c'est comment prendre son bébé? Eh ben, bébé, vous allez voir, c'est très naturel. On le prend en général à deux mains. Une main qu'on va mettre sous le dos, mm-hmm, qui prend le bas du dos, les fesses, parce que c'est petit un bébé.
Bah
ça,
oui,
tient sur une main. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, c'est dingue.
Et l'autre main va tenir les épaules et la tête.
Okay.
Voilà. Et vous tenez bébé, vous le sortez du lit, vous le posez sur votre propre lit, vous vous promenez un peu avec lui, vous allez le découvrir, vous allez le mettre contre vous, vous allez faire du pot à pot. L'auxiliaire de périculture, la péricultrice, la sage-femme sont là pour vous montrer et ça va se faire complètement naturellement. Et un bébé est beaucoup plus solide qu'on pense, il est mou, mais vous n'allez pas lui faire le coup du lapin. Ça,
oui,
c'est vraiment si vous le tirez à toute blinde en le prenant par les bras, ce qu'on ne fait jamais.
Non.
On ne tire jamais un bébé par les bras, on le prend tranquillement en glissant une main sous le dos et une autre sous les épaules et la tête.
Et vous allez voir. Il gigote pas, après, moi j'ai l'impression qu'un bébé ça gigote beaucoup. Alors c'est...
Au début, ouais, les 24 premières heures, c'est très calme un bébé,
okay,
c'est assez calme. Ça s'agite quand ça a faim. Et puis une fois qu'il a bu, mangé, après il s'endort, il est tout mou, tout calme. Les premières 24 heures et les premiers jours, ça dort un bébé.
Okay.
C'est dans un rythme ultradien, c'est-à-dire que le sommeil est régulé par les repas. Je mange, je dors, je mange, je dors, constamment.
Mm-hmm.
C'est pas encore le rythme circadien où le bébé fait la différence entre le jour et la nuit.
D'accord.
Ça s'installera vers l'âge de 2 à 3 mois. Ouh là là, on a le temps.
Oui, on a
on
le temps.
A le temps. Oui, oui.
Et est-ce que justement, par exemple, si mon bébé dort mais que j'ai vachement envie de le porter, est-ce que c'est bien de quand même le réveiller et de le porter ou il vaut mieux vraiment que je le prenne seulement quand il a faim et donc le reste du temps je le laisse coucher?
Alors au début, vous allez observer son rythme de sommeil et de tété et de succion, mmh, d'avoir envie de manger. C'est vrai que on respecte le sommeil du bébé.
Okay.
Il a des rythmes de sommeil qui se sont mis en place pendant le dernier trimestre de grossesse, c'est ça qui est assez extraordinaire, et d'ailleurs qui ne sont pas calés forcément avec le rythme de la maman. Hein, on le sait, les bébés, pendant le dernier trimestre de grossesse, ils font plutôt la java entre 21h et 2h du matin.
C'est pas mon cas.
C'est pas votre cas.
Non, pour le coup, c'est assez dingue. Moi, ça bouge la journée, mais la nuit...
Bon, bah, tant mieux. Donc, il a son rythme de sommeil. Et puis, quand il commence à s'agiter, vous allez voir. Parfois, il s'agite juste parce qu'il y a un petit, il est pas bien positionné ou parce que il a eu un petit rêve qu'il a fait. Parce que les bébés font des rêves aussi, ou parce qu'il y a eu un bruit dans le couloir, une porte qui a claqué, il a sursauté. Un bébé sursaute, il faut pas avoir peur de ça. Il a des réflexes auditifs qui sont assez poussés et une petite porte qui claque, vous allez voir, il va sursauter.
D'accord.
C'est normal. Une fois qu'il se réveille, eh ben là, on s'interroge, on se dit, voilà, il a eu le dernier repas il y a combien de temps? On fait à la demande, on le prend, on le change d'abord et on donne le repas après, ou le contraire.
D'accord.
En général, on donne d'abord à manger, puis on le change après. Pourquoi? Parce que souvent, le fait de téter, de sucer le lait, eh bien, ça donne un réflexe orofécal,
okay,
c'est-à-dire que ça favorise la venue d'une selle.
Okay.
Ça,
d'accord,
en tant que parent, on apprend petit à petit à connaître la physiologie de son enfant.
Et c'est vrai que, alors, c'est pas dans toutes les cliniques et hôpitaux comme ça. Moi, dans celle que j'ai visitée et dans celle dans laquelle je vais accoucher, il n'y a plus de pouponnière. Donc, en fait, tout est dans la chambre. C'est-à-dire, là où on lave le bébé, c'est dans la chambre. Tout est optimisé. Donc, le bébé sort plus de la chambre. Donc, on se retrouve vraiment seul, quasiment continuellement avec son bébé. Et tous les soins qui sont faits par l'auxiliaire de puériculture, et etc., sont faits dans la chambre de la maman. Et ça, c'est vrai que c'est pareil. Je me dis... alors, moi, j'ai des grosses angoisses qui me viennent souvent la nuit, d'ailleurs, en ce moment. C'est que j'ai toujours... je rêve que je fais glisser mon bébé comme s'il allait me glisser des mains parce qu'il était hyper savonneux. Est-ce que ça, c'est... enfin, je pense que ça n'arrive pas comme ça. Il glisse pas des mains. Mais c'est vrai que, par exemple, le bain, est-ce que je dois lui donner un bain tous les jours, par exemple, à la maternité? Enfin, sur ces premières 24 heures, alors, je fais quoi?
Le premier bain, on attend en général 24 à 36 heures.
Ok.
Pour respecter le microbiote cutané qui va se développer. Mm-hmm. Il y a des bons germes sur la peau. Il y a eu un ensemencement qui a été fait par la flore vaginale de la maman.
Oui.
Quand le bébé sort et descend au contact avec le vagin, eh bien, il est au contact avec les bactéries, les virus, les protozoaires, tous les bons germes qui vont lui permettre de développer son microbiote cutané, mais aussi intestinal, pulmonaire. Il y a plusieurs types de microbiote. Et c'est très important de respecter tous ces germes, qui sont des bons germes, qui vont l'aider à se défendre, pour faire une barrière contre les infections et tout ça plus tard. C'est pour ça qu'on ne donne pas de bain tout de suite, on attend un peu. Après, la moyenne, c'est de donner 2 bains par semaine, maxi. Voilà.
Okay.
Et le premier bain, bah, vous allez le donner, l'auxiliaire sera là, elle vous montrera comment il faut faire. Et puis, on laisse jamais, moi j'ai jamais vu un bébé tomber de la baignoire.
Oui.
On est tellement prudent,
oui, c'est
on
ça.
A tellement envie de faire bien que non. Par contre, si on a eu une césarienne, qu'on est fatigué, il est évident que là, on est assisté.
Oui,
parce
bien
qu'on
sûr.
Peut avoir une faiblesse ou si on prend des médicaments ou autre. Ça, c'est autre chose. On est accompagné le temps de bien récupérer des forces.
D'accord.
Là où j'attire l'attention, c'est quand, par exemple, une maman fait un allaitement et elle garde bébé contre elle dans son lit et puis elle s'endort.
Oui.
Et là, il peut y avoir un risque.
Okay.
Il peut y avoir un risque de s'endormir d'abord sur le bébé. Mm-hmm. Et du coup d'étouffer le bébé. Donc ça, on fait très attention à ça. On explique aux mamans, vous donnez le sein ou vous donnez le biberon dans le lit. Mais si vous êtes un peu fatigué, remettez bébé dans son lit. Parce que si vous pouvez vous endormir sur lui. Et même en s'endormant sur lui, on peut aussi le faire tomber.
Bien sûr.
En bas du lit.
Ouais, ouais.
Et ce qu'on voit, très rarement, heureusement, c'est hyper rare, c'est un bébé qui tombe du lit de la maman.
Ok. Ouais.
Mais le bébé qui tombe de la table allongée, ça, c'est plutôt à la maison que ça arrive.
Oui.
Mais c'est plus tard, quand il a 4 mois et qu'il commence à se retourner, qu'il y a eu une demi-seconde d'absence de vigilance. Mais c'est quand même très, très rare. Voilà.
Et dernière question qui est un peu ouverte, mais justement, à quoi m'attendre dans ces premières 24 heures où je vais passer finalement, je pense, après mon accouchement, d'être fatiguée. Et c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je m'occupe d'une certaine manière, en dehors de lui donner à manger et de le changer? Finalement, c'est de se reposer et de profiter, d'écouter ses petits bruits.
Vous
voilà,
êtes
c'est
là
ça.
Alors maintenant, les séjours en maternité sont de plus en plus courts.
Oui.
En Grande-Bretagne, par exemple, une maman à la couche et le soir, elle est rentrée.
D'accord. Ah ouais.
Il y a d'ailleurs en France, on peut le
on
faire
peut,
parfois. Il y a des
demande,
mamans qui disent, moi, j'ai vraiment envie de rentrer, tout s'est bien passé. Il y a des accompagnements à la maison, il y a des sages-femmes qui passent, il y a des équipes volantes, il y a du. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut organiser. Bien sûr, les premières heures, Je dirais qu'il faut profiter des 2 nuits, des 2 jours en moyenne, c'est ce qu'on passe à la maternité, pour écouter son bébé, l'observer, voir comment on peut l'apaiser, et puis voir ce qu'il est en train de dire.
Mm-hmm.
Parce qu'un bébé dit énormément de choses.
D'accord.
Énormément de choses. Il n'a pas le langage, mais il a les mimiques. Il a le cri.
Mm-hmm.
Et vous allez, avec le temps, découvrir le cri parce qu'il a faim, le cri parce qu'il a chaud, le cri parce qu'il a le bras coincé, le cri parce qu'il a sursauté parce qu'il y a une porte qui a claqué, ou le cri parce que...
Il
y a une selle qu'il a du mal à faire. À distance, avec les yeux fermés, vous allez, avec le temps, reconnaître le type de cri de votre enfant.
D'accord.
Et moi, pédiatre, parfois j'entends un bébé crier, un nourrisson dans la salle d'attente, ou un nouveau-né, à distance, sans voir le bébé.
Vous arrivez déjà à savoir ?
J'arrive presque à savoir pourquoi il pleure.
D'accord.
On s'habitue à ça.
Ouais.
Et ça, c'est ça qui va être merveilleux, de découvrir. Faut pas demander aux autres de vous expliquer pourquoi il pleure. Vous allez le découvrir par vous-même. Après, les questions sont simples. Savoir s'il a assez à manger. Eh ben, il faut faire confiance au bébé, à sa satiété. Un bébé, c'est toujours... Quand il a plus faim, il a plus faim.
Oui, c'est ça.
Faut pas le forcer. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux mamans qui ont un bébé qui fait moins de 2 kilos, qui peut éventuellement être un peu hypotrophe. c'est-à-dire qu'il y a un poids inférieur à celui qu'il devrait avoir par rapport à l'âge gestationnel. Ça peut arriver. Et c'est vrai qu'on est un peu vigilant pour éviter qu'il y ait des problèmes d'hypoglycémie. Et du coup, sans s'en rendre compte, on met un peu la pression sur les parents qui se disent « il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils mangent ». Ça génère du stress et quand ils rentrent à la maison, ils n'ont plus que ça comme questionnement, alors qu'en fait, bébé sait ce dont il a besoin. On sait qu'il faut que ce soit tous les temps et temps d'heure. Dans certains cas, on va réveiller bébé, mais ça, c'est plutôt dans les bébés, soit qui sont prématurés, soit qui ont un poids un petit peu bas.
Un petit peu bas, ouais.
Voilà, nos stress, on fait confiance au bébé. Et puis, petit clin d'œil, petite chose bonne à savoir, pour savoir si un bébé a assez à manger, que ce soit au sein ou que ce soit avec un biberon, on regarde s'il urine bien. S'il urine régulièrement, ça veut dire qu'il est bien hydraté.
Okay.
S'il a des couches qui sont régulièrement mouillées, c'est bon signe.
Okay.
Par contre, les selles, ça c'est aussi une question que souvent se posent les jeunes parents. Écoutez, il a fait qu'une selle, il n'en a pas fait depuis 3 jours. Un bébé qui est allaité, par exemple, le lait est très adapté au bébé, et donc il y a très peu de résidus, et on voit des nouveau-nés qui ne font qu'une selle tous les 4, 5, 6 jours parfois, et c'est tout à fait normal. Et, ou inversement, certains nourrissons, en fonction du lait qui est utilisé, qui vont en faire 2 ou 3 par jour et qui vont à peu changer de texture. On observe son enfant et puis on voit comment ça se passe. C'est interactif.
Comme vous m'en parliez pour l'accouchement dans un des autres podcasts, finalement, il n'y a pas de règles non plus par rapport à un bébé. C'est un être humain, il va fonctionner d'une certaine manière. Il y a des sortes de pratiques, mais voilà.
On l'écoute, il y a l'interaction, on écoute ce qu'il a à dire, parce qu'il a à dire avec les mouvements, comme je le disais, avec le cri, avec le mouvement des paupières, les yeux qui commencent à ouvrir un peu, le visage qui tourne vers la maman qui parle, parce qu'il reconnaît le son de la voix de la maman, il reconnaît aussi le son de la voix de l'autre parent. Et tout ça, c'est une découverte des premiers jours, en particulier à la maternité, et c'est pour ça que j'insiste pour dire ce temps-là à la maternité, il est pour vous trois, faut pas qu'on vous le vole. Et c'est souvent là qu'on veut faire venir plein de monde, parce qu'on est tellement content de présenter son bébé et c'est compréhensible, mais attention, on commence à faire venir du monde. Ah oui, mais alors j'ai fait venir un tel, il faut que je fasse venir aussi un tel, parce que sinon elle va se vexer. Et on n'en finit plus, on est crevé, on rentre à la maison, on est fatigué. Et en plus, on n'a pas justement été dans cette écoute de son nouveau-né, de ces signaux merveilleux que le... Et que pas seulement que le bébé envoie vers les parents, mais que les parents envoient vers le bébé.
Oui, c'est ça.
Le portage, la caresse, le peau à peau, le rythme sommeil et repas, la parole apaisante, tout ça, ça compte.
Ok, merci beaucoup Dr Ferzorf pour ces conseils. J'ai hâte de pouvoir les vivre et de pouvoir vous faire des retours sur ce que j'ai ressenti là pour ce moment, à nouveau dans le présent finalement. On est vraiment dans ce moment présent où on est seul avec son bébé.
On est dans le présent, on est dans le naturel complètement. Et bien sûr, s'il y a des petits problèmes, à ce moment-là, on voit avec des professionnels de santé. S'il y a un frein de la langue, s'il y a un machin, un truc. Bon, on voit s'il y a une crevasse quand on donne le sein. On est accompagné, mais tout se règle toujours. Et puis, si on veut en savoir plus, ben on demande aux professionnels de santé. Ou sinon,
écoute
tous les
podcasts.
Sur pédiatre-online.fr.
C'est ça.
Allez.
À bientôt, merci.
À bientôt, Annabelle.